Mon premier album.
À moi.
Et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon premier album à moi. Et pour refaire cet épisode, parce que là, mine de rien, on en est au troisième ou alors au deuxième si on prend le pilote avec Randall Flagg, on va peut-être expliquer vite fait en gros c'est quoi le principe. On invite moi, enfin, je dis on, c'est moi et Grincheux. Bonsoir Grincheux.
Salut.
On invite un invité. Inviter un invité, c'est nul ça, ouais, c'est pas ouf. Enfin, on invite quelqu'un pour nous parler du premier album musical qu'il ou elle a acheté. Généralement, on va y poser 8 questions. 9 questions, un petit peu plus. Ça va être du genre d'où ça vient, quand est-ce que tu l'as eu, non mais bordel pourquoi, c'est un petit peu la honte. Et puis globalement, bah on va en discuter ensemble. C'est à peu près ça, Grincheux.
Bah globalement c'est ça. La règle c'est le premier album qu'on a acheté pour lequel on a fait une dépense quand on est pré-ado et donc quelque chose qui était important pour nous quoi.
Alors que ce soit en vinyle, en cassette. Cylindre, sur de la cire, sur des poteries, peu importe, il faut que vous l'ayez acheté. Voilà
la technologie, on va dire qu'on n'est pas sectaire, puisque selon les générations, selon les époques, ben, c'était pas forcément les mêmes.
Et c'est pas parce qu'on a une photo de manche-disque que c'est forcément un disque.
Oui, et puis voilà, on veut des albums, et c'est vrai qu'on a mis un manche-disque parce que c'était plus symboliquement représentatif, mais bien sûr qu'un 45 tours n'est pas un album.
Oui, voilà. Enfin, on va être pas... Un album dont vous voulez bien parler. Pas trop la honte, mais un petit peu, voilà, un vrai.
Ouais,
choisissez-le bien quand même. Hein.
J'écoute nous a prouvé que on pouvait assumer des choix. Enfin,
on pouvait être né après la honte et apprécier quand même. Donc ça sont des choses qui arrivent. Je crois que cette fois-ci, on va aller en 1956 avec
et
notre invité.
Voilà, donc on savait que notre invité du jour était vieux. Oui, même pour moi, mais je pensais pas que c'était à ce point-là, puisque nous allons donc en 1956. Donc, 1956, en France, c'est la fin du gouvernement de René Coty, cher OSS 117. C'est aussi la guerre d'Algérie, et puis également l'indépendance du Maroc et de la Tunisie. Tous les autres événements en France, c'est trop loin, ça ne m'avait rien évoqué du tout. À l'international, on a à Cuba, il y a 3 petits gars et des potes à eux qui débarquent, Fidel Castro avec son frère Raoul et Ernesto Che Guevara, qui viennent pour tenter de renverser Batista. En Inde, on commémore les 2500 ans de la mort de Bouddha. Ouais, l'année 56, il n'y a pas eu des masses d'événements qui m'ont semblé super marquants quand même. Hein. Il y a des naissances d'abord. Alors moi, j'ai pris que les naissances de musique parce qu'il y a une liste de naissances pas croyable. Donc, en 56, c'est la naissance d'Étienne Dao, de Didier Lockwood, comme quoi le violon, il y a des fois, ça sonne pas forcément Zigane,
et
de Charles-Élie Couture, Bernie Bonvoisin, ou encore... Désolé, de Francky Vincent. Eh oui, il n'y a pas que du bon. Hein.
Mais il l'a eu son restaurant, c'est déjà ça, quoi.
Oui. Donc, côté musique, on a Josephine Baker qui a fait ses adieux à l'Olympia pour la première fois. Les différents pays européens s'amusent à promouvoir leurs artistes inconnus dans une grande fête qu'ils appellent l'Eurovision. Salut Benji.
D'ailleurs, c'est Bryan Cranston qui est né en 56,
oui.
Apparemment.
Oui.
Et puis je vois qu'il y a un certain Gilbert Doucet. Il me cherche.
Mais aucun lien.
Aucun lien, d'accord, ok.
J'en sais rien s'il y a aucun lien, mais non, je ne l'ai pas relevé parce que. Mais oui, j'ai pensé. Mais bon, tu sais, on a le maire de Lyon aussi qui s'appelle Grégory Doucet.
Oh merde. Bon, ouais, vas-y.
C'est une mafia. Hein.
Non, mais j'ai joué, je sais.
Donc, pour revenir en France, on a la chanson « Johnny fait moi mal » interprétée par Magali Noël sur des paroles de Boris Vian qui est interdite de diffusion à la radio à cause de ses paroles trop osées. On écoute Georges Brassens nous chanter l'Auvergnat, ou bien on écoute aussi Annie Cordy avec la balade de Davy Crockett.
Je la connais pas celle-là. Enfin, je connais Annie Cordy, mais la balade...
Davy Crockett.
Ah, c'était elle?
Bah ouais, et ouais. La chanson, elle a quand même traîné longtemps pour que nous aussi, on l'ait entendue.
Oui, c'est clair. Oui, c'est compliqué.
Hein? Allez, vous sortez vos petits chapeaux en poil de castor, là. Et puis, plus globalement, c'est la grande période rock'n'roll. Donc les grandes stars du moment, c'était Little Richard, Gene Vincent, Johnny Cash, Les Platters, Fat Domino, Chuck Berry, Bill Haley, et puis bien sûr, Elvis Presley. Et oui, Elvis, parce que ben, c'est bien de lui dont il va s'agir ce soir, avec ses chaussures en daim bleu et son déhanché provoquant, qui a d'ailleurs fait des scandales cette année-là. C'est de lui dont va nous parler ce soir Blast. Bonsoir Blast.
Bonsoir.
Dieu est parmi nous, il est descendu parmi nous les êtres humains.
Bonjour, bonsoir, bonne journée à tous. Je tiens à préciser que j'étais pas né en 56, malgré ce que vous pouvez croire ou laisser entendre.
C'est une feinte. Oui, c'était une feinte, ouais, d'accord. Non mais ok.
Comme quoi, on n'est pas obligé d'acheter des albums l'année de leur sortie.
Non, effectivement, c'était pas du tout le cas. C'était ben, même il était mort quand j'ai acheté l'album.
Mais au moins, là, on est sûr d'une chose, c'était un vinyle.
Alors, je vais commencer par déroger à la règle. C'est que techniquement, je l'ai pas acheté. J'ai tout fait pour l'avoir.
Arnaque.
Mais je ne l'ai pas acheté. En fait, je l'ai gagné à un concours. dans un supermarché de mon village, de ma petite commune. Supermarché Codec, vous connaissez l'enseigne Codec ?
Ça m'a fait quelque chose, ça.
Ça remonte à l'époque où les hypermarchés s'appelaient Mammouth et les supermarchés s'appelaient Codec.
Ça faisait les prix, ouais.
Et ce supermarché du village organisait régulièrement des trucs pour les mômes. Alors, je sais pas ce qu'ils y trouvaient. Peut-être que ça nous évitait de faire des conneries. Régulièrement, ils faisaient des trucs. Alors, ils faisaient des concours de chant, a cappella, etc. Et on remonte quand même beaucoup plus tard que 56. On était en 78, quelque chose comme ça. Je crois que c'était 78. 78 pour les Belges et les Suisses. Et ils avaient organisé un concours de Rubik's Cube, qui s'appelait pas encore le Rubik's Cube, il s'appelait le Magic Cube à ce moment-là. Il est tout juste de débarquer et j'ai vu que récemment les gens faisaient des concours, ils résolvaient le Rubik's Cube en 4 secondes, 2 secondes et demie, des trucs complètement délirants. Nous, on mettait 1 minute 30. Mais 1 minute 30, ça m'avait permis de gagner le concours et donc voilà, j'avais gagné cette bombe. C'était des circonstances assez amusantes parce que Elvis, ouais, faut voir, moi je me retrouve à 11, 12 ans, enfin entre 10 et 12 ans, Elvis est mort. Du coup, je pense.
Comment ça,
parce
il est mort, Elvis ?
Ben, il est mort, ou il est parti sur
une île avec Coluche des proches,
et Michael Jackson.
En tout cas, il a disparu, et un an ou deux auparavant. Et donc, je pense que c'est là que j'ai commencé à en entendre parler, à le voir à la télévision. Mes parents écoutaient un peu tout, ils n'étaient pas spécialement. Des mélomanes ou des gens qui écoutaient beaucoup beaucoup de musique, mais on avait la variété à la maison, on avait des tas de choses et aussi du rock de l'époque de Bill Haley, d'Elvis, etc. Donc c'était connu et j'ai souvenir d'avoir vu Elvis surtout au cinéma plus qu'en chanson, mais évidemment c'était du cinéma où il chantait, donc du coup je l'avais aussi en tant que chanteur et j'accrochais énormément au style. Le groove qu'il dégage est un truc qui m'est rentré dans la peau tout seul, quoi. Sans que je force, sans que les parents jouent le titre en boucle et qu'on finisse par film. C'est vraiment un truc qui m'a pris tout seul. Et quand je suis arrivé à ce concours dans le codec, où très gentiment ils nous ont annoncé c'est celui qui gagne, il va pouvoir choisir dans ses albums. Alors c'était des invendus qu'ils avaient évidemment. Là on parle d'un titre. Alors j'imagine qu'il avait été réimprimé, mais il est RCA Victor. C'est le vinyle avec la photo d'origine, probablement une réédition. C'est pas une édition originale. D'ailleurs il a été made in France, donc. Clairement, c'était pas la version américaine, mais je l'ai vu parmi les autres albums qui proposaient aux gamins, et j'ai dit il faut absolument que je gagne son concours parce que je veux cet album. Et il y avait plein d'autres trucs et des choses relativement récentes aussi, mais j'ai vraiment focalisé dessus et je me suis défoncé et j'ai gagné le concours de Rubik's Cube et je suis reparti fièrement avec mon Elvis Presley que j'ai écouté. Très très très, ben, je l'ai usé. Hein. J'oserais pas le repasser sur une platine parce que il a vraiment passé pendant des années à raison de plusieurs fois par semaine. C'est un truc d'ailleurs que j'ai remarqué en essayant de réviser un petit peu pour l'émission et enfin pour le podcast. je me rends compte que je connaissais quasi rien d'Elvis. Je connaissais que sa musique et ses prestations au cinéma. En tant que gamin, bon, c'était pas un très très bon acteur. C'était pas un mauvais acteur, mais c'était pas un très très bon acteur. En tant que gamin, j'avais pas besoin de plus. J'avais un mec qui jouait toujours il roulait des mécaniques, etc. Et il chantait super bien. Et j'accrochais à cette manière de chanter. Enfin, c'était incroyable. Et pour autant, sa carrière, elle m'était complètement passée au-dessus de la tête. Je me souviens que quand j'étais tout gamin, j'avais vu Jailhouse Rock, probablement un des premiers Elvis que j'ai vu, et j'étais persuadé que c'était un biopic.
Ah d'accord, le rock du bagne est carrément biopic. D'accord.
J'étais persuadé que c'était un mauvais garçon, qu'il avait fini en prison, qu'il avait pris un coup de poing dans la glotte et que pendant un temps il savait pas s'il allait pouvoir rechanter. Enfin c'est vraiment cette histoire. Alors c'était ridicule, évidemment quand on prend avec du recul, on se dit bah tu peux pas jouer ta propre histoire, être à la fois l'acteur et le personnage en reprenant. Enfin tu peux pas faire un biopic comme ça. Mais ça m'avait pas du tout. J'étais persuadé que c'était ça son histoire, quoi.
Oui, vu de l'imaginaire d'un enfant, ça collait.
Oui, parce que j'avais dû voir ça que j'avais 8-9 ans et ça collait bien. Parce que le truc qui est marrant, c'est que à ce moment-là, je connaissais les chansons. Donc du coup, je connaissais les chansons et je vois un film où il chante des chansons que je connaissais sous son nom. Et bon, il s'appelle Vince, je sais plus quoi, dans le film, mais j'ai jamais fait le lien, quoi. Et j'ai mis un temps avant de réaliser que, ben non, c'était juste un film. Peut-être en regardant un autre film d'Elvis Presley, en me disant, tiens, il joue un autre rôle, c'est peut-être pas exactement son histoire, finalement. Donc vraiment, il y a que cette manière de chanter, cette musique, c'est essentiellement la musique, le groove qu'il y a derrière. Qui m'est rentré dedans. Enfin, moi, je suis très très fan de blues et de tout ce qui en est sorti entre le blues, le rhythm and blues, les gospels, etc. C'est un type de musique qui m'a accroché depuis à peu près toujours. C'était comme une évidence, quoi.
Je dis, il faut toujours inviter Blast. Parce qu'on avait un plan à faire là, on avait chacun des questions et tout, il nous a tout cramé.
Maintenant vous allez devoir griller
vos questions.
Alors,
moi je commence, hein, tu me vas-y. Permets, parce que j'ai quasiment tout raconté, mais c'est pas grave, mais cet album là, là encore.
Ouais, je l'ai devant moi là, je l'ai devant mes yeux. En fait, je l'ai trimballé depuis que je l'ai, donc depuis que j'ai 11 ans, donc ça fait plus de 40 balais que je trimballe. J'ai fait tous mes déménagements avec, j'ai toujours eu avec moi. Et j'ai pas toujours eu une platine vinyle, parce que la platine vinyle c'était une affaire de famille. Comme je dis, mes parents n'étaient pas des grands mélomanes. Et par contre, j'ai une grande sœur qui a toujours aimé la musique et qui a reçu un jour à Noël, quand elle était gamine, un électrophone qui trônait dans le salon. Qui était l'électrophone familial, parce qu'à la maison il y avait des cassettes, mais il n'y avait pas de chenifi, pas chez nous. Mes parents n'étaient pas ultra riches, hein, loin de là, donc du coup il n'y avait que vinyle qui passait sur l'électrophone de ma frangine qui était à disposition de tout le monde. Et alors la règle du jeu, c'était, tu avais envie d'écouter un disque, s'il n'y avait personne qui se servait, tu mettais ce que tu voulais. Et personne ne pouvait te dire « Ah, change de musique » ou un truc comme ça. C'était comme ça. Donc, si ma mère avait décidé de mettre de Amalia Rodriguez, c'était Amalia Rodriguez qu'on se farcissait. Si elle voulait mettre du Piaf, c'était du Piaf. Elle était plutôt dans des styles, des goualantes et ce genre de style. Si elle voulait mettre de l'accordéon, c'était de l'accordéon. Si c'était de la variété, c'était de la variété. Et ma frangine contrecarrait ça parce qu'elle était assez fan de ce qui sortait et elle revenait de l'école en me disant « Ah, oh, il faut absolument que tu écoutes ça !» Elle me faisait découvrir Higelin, Joe Cocker, voilà, elle arrivait ou Police, comme ça. Et en fait, on découvrait moi, je découvrais la musique sous son influence. Elle me servait de disque jockey, quoi. Elle rentrait en disant « Ah, ça c'est super, il faut absolument que tu connaisses. » Et c'était génial. Donc, moi, j'ai découvert la musique entre vraiment la variétoche, la musique plus ancienne, Brel, Piaf, etc. Des choses qui étaient qui venait de sortir, que j'ai découvert au fur et à mesure que ça sortait. Et puis, cette espèce d'entre-deux, qui est ouais, la musique des années 50, qui m'a toujours, toujours accroché, et qui n'était pas la musique que tout le monde écoutait à la maison, mais c'était moi. Alors du coup, je me foutais devant le magnétophone, non, l'électrophone, je mettais le truc, et je restais debout devant le disque qui tournait, avec la pochette dans les mains, et j'écoutais le truc. Donc ça dure une demi-heure, hein. Enfin les deux faces, c'est un quart d'heure par face, mais j'écoutais l'intégrale du truc debout devant l'appareil à regarder le disque tourner. Je faisais pas autre chose, j'allais écouter mon album, et il y en avait d'autres, hein. J'écoutais pas que ça, mais au moins ouais, 3 ou 4 fois par semaine je l'écoutais intégralement.
Alors tu as lâché deux mots.
Oui.
Le premier, c'est électrophone.
Oui.
On connaît les manches disques avec grincheux, mais alors électrophone, j'étais obligé de chercher sur le net. Est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est un électrophone ?
Alors, l'électrophone, enfin, ce que j'appelle un électrophone, à la différence d'une platine, il y avait la catégorie platine hi-fi à la maison, la chaîne hi-fi à la maison, qui comportait une platine disque en général, un ampli pour pouvoir diffuser sur des haut-parleurs, une platine cassette, un tuner. Souvent un préampli pour le vinyle, donc et puis une section d'équalisation. Donc t'avais vraiment un enchaînement de plusieurs appareils les uns au-dessus des autres, qui coûtaient chacun un bras et que les gens achetaient avec soin et mettaient des enceintes, etc. Ça, c'était la chaîne hi-fi des gens qui avaient les moyens. Nous, on n'était pas dans cette catégorie-là. Il y avait la catégorie du manche-disque, effectivement, qui était plutôt liée au yéyé. Pour aller écouter avec les copains, c'était sur pile en général, ou enfin ça devait, j'imagine que tu devais mettre 6 grosses piles dedans et ça devait durer 2 heures, mais je pense que pareil, ça pouvait certainement se brancher sur le secteur, et c'était le truc plutôt pour les jeunes. Et puis l'électrophone, c'était une espèce d'entre-deux, un boîtier avec l'ampli est à l'intérieur et il diffuse directement. En fait, quand tu avais le boîtier, il était rangé. Tu avais les deux enceintes qui faisaient 6 ou 7 cm d'épaisseur carré qui se mettaient sur le dessus et que tu pouvais détacher et mettre de part et d'autre avec juste cette platine. Finalement, c'était une platine autonome. C'était la platine de disque, mais qui comportait son préampli et son ampli à l'intérieur. Ça sonnait pas très fort, ça sonnait pas très bien. C'était même pas des diamants, c'était des saphirs qui finissaient par user les disques de manière catastrophique. Ça faisait 45 et 33 tours, et puis c'était tout, quoi.
Puis bah, le son était cracra, etc. Mais ouais, moi je me souviens qu'on en avait chez mes grands-parents dans le grenier, et qu'on s'amusait à écouter les vieux disques du grenier sur les électrophones de mes tantes.
Ouais, et alors sur les électrophones les plus anciens, il y avait même le 78 tours.
Et là, le deuxième mot que tu as acheté, c'est pochette. Et à ce moment-là, je passe le relais à mon cher grincheux.
Bah, donc, on a un peu évoqué la pochette. Tu nous dis que tu l'as avec toi la main. Donc, je ne vais pas te demander si tu te souviens de la pochette, mais est-ce que tu peux nous la décrire ?
Alors, sur la face avant, on a Elvis en train de chanter très jeune. Évidemment, la photo probablement date de 54 ou 55 ou 56. Il joue une guitare, de la guitare folk. C'était pas un très grand guitariste, mais bon, il savait jouer de la guitare. Il chante, il est en train de pousser la note, donc il a la bouche très très ouverte. La guitare est portée très très haut sur lui, et il y a marqué Elvis Presley. Elvis est écrit en rose et verticalement, et Presley horizontalement en vert. C'est le premier album d'Elvis Presley qui s'appelle Elvis Presley. C'est le nom de l'album.
Ces couleurs flashy comme ça, on a presque l'impression que ça a été refait.
Le rose et le vert, c'est très très bizarre de voir comme ça.
Ça fait pas d'époque.
Ça fait pas d'époque, et pourtant c'est la pochette d'époque. C'est la même, c'est la pochette depuis toujours. Effectivement, avec ce côté très rose et très vert, parce que si on mettait des post-it, j'ai des post-it la rose à côté de moi.
On pourrait le faire en post-it.
C'est pratiquement la même couleur, un petit peu plus foncé quand même. On est pratiquement aussi flashy que le post-it rose et que les post-it verts que l'on connaît. J'ai un post-it vert de l'autre côté. Bon, c'est quand même plus sombre, mais ça a un côté très flashy sur une photo en noir et blanc. Et de l'autre côté, on a Elvis qui est aussi avec une guitare folk. en train de chanter. Mais alors là, il a ce côté, quand il soulevait un peu la lèvre droite, il mettait sa bouche un petit peu de travers quand il chantait. Et on a un magnifique micro que j'imagine être un micro à ruban qui est suspendu au-dessus de lui. Et là, la photo, elle est sur des tons pastel bleu. Avec les titres, il y a pas les paroles, il y a juste les titres qui sont à l'arrière et c'est tout quoi. Donc c'est un album simple.
Bien d'essayer de faire semblant de chanter en levant la lèvre droite. Globalement, on a vraiment l'air d'un con. Ne le faites pas.
Pas quand tu t'appelles Elvis. Ça marche pour lui.
Ça doit être les cheveux.
Ouais. En même temps, enfin ouais, si tu prends juste la tête sur la pochette, il a pas l'air fut-fut. Hein.
Non mais. Il faut vraiment.
Désolé, on est avec l'épisode précédent, on est rentré dans un mood. On bâche les
artistes.
Oui,
d'ailleurs, vous avez vachement bâché parce que Frédéric François, qui est d'origine italienne et qui est belge, et que donc j'ai eu l'occasion de le croiser sur des fêtes ou un truc comme ça, au moins une fois, c'est pas du tout le gars dont l'image est sur ses pochettes. Hein. C'est un gars absolument adorable, extrêmement gentil et qui a fait une très très chouette carrière. Hein. Vous avez été très méchant.
Merci de corriger tout ce qu'on a dit, de toutes les méchancetés qu'on a pu dire sur lui.
C'est une personne absolument adorable qui a la réputation d'être adorable.
D'accord. Mais c'est vrai que quand on voit les titres qu'il y avait dans ses chansons, c'était...
Ah oui. Bien.
C'est pas l'artiste, très
mauvais garçon. Hein. C'était un gros déconneur. Très honnêtement, c'est un très très gros déconneur. Ça, je l'ai vu au fur et à mesure en repassant un petit peu sa carrière. S'il avait l'occasion de déconner, il le faisait. Et d'ailleurs, pour enregistrer Elvis Presley, cet album-là, qui s'est étalé sur deux ans d'enregistrement, avant que ce soit repris par RCA, il avait commencé par enregistrer quelques titres chez Sun, puis ensuite RCA a repris le contrat. Il cherchait, parce qu'il s'était fait embaucher, il avait été pris sous le label, et il cherchait à enregistrer, et à un moment donné, ils ont tapé le bœuf, et ils se contentaient de déconner, quoi. C'était un gamin qui était doué, mais c'était avant tout un gamin qui avait énormément de sens de l'humour, et qui adorait ça. Faut écouter des versions alternatives en concert d'Elvis Presley sur des chansons qui lui sortaient par les yeux, parce qu'il en avait marre de les chanter. Il modifiait les paroles, c'est une catastrophe. Are You Lost Zone Tonight, il le raconte, mais enfin, quand on écoute la version alternative d'Are You Lost Zone Tonight, entre autres celle où il se met à se marrer, il change les paroles, c'est juste n'importe quoi. Très drôle. Enfin, il faut parler anglais.
T'as continué le rock après ? Parce que je vois que ta sœur t'a ouvert à la musique avec ce fameux électrophone. T'as continué dans le rock ?
Ouais. À la même époque, donc entre 11-12 ans, il y avait Téléphone qui sortait. Pour moi, le premier vrai groupe de rock français qui débarquait avec Hygiaphone, c'était en 78, c'était à ce moment-là. Et puis, il y avait, c'était quand même le gros moment de chanteurs comme Eddie Mitchell. J'étais pas trop fan de Johnny Hallyday. J'écoutais sans être ultra fan, mais par contre, j'étais très très fan du style, enfin, des chansons d'Eddie Mitchell. Et qui d'ailleurs, en 78, chantait Et la voix d'Elvis. Et ça a dû jouer, hein. Enfin, je suis certain que c'est des choses, c'est à un moment donné, t'as le truc, il y a la rétro parce qu'il est mort depuis un an ou deux, et donc du coup j'imagine que pendant plusieurs semaines on a dû avoir toute la rétrospective de films. Il y a Eddie Mitchell qui sort la voix d'Elvis, enfin, c'est toutes ces choses-là qui en même temps font que, voilà, moi j'arrive au concours et il y a Elvis Presley dans les bacs, c'est ça que je veux. Mais après j'ai continué à écouter. Alors le rock, j'ai évolué. J'ai toujours aimé à peu près toutes les musiques. Hein. Moi, le disco m'a jamais posé de problème. L'électro, l'italo disco m'a pas posé de problème non plus. Le punk, j'adore ça. Le rock dans tous ses styles, jusqu'au rock alternatif avec les accordéons, etc.
Et synthé modulaire.
Pardon ?
Et les synthés modulaires ?
Alors, les synthés modulaires, j'ai écouté la période synthé de Jarre et compagnie, j'ai écouté, ouais, aussi. J'ai jamais été vraiment, vraiment fermé à la musique. Et puis, il y avait la variétoche. Hein. Faut pas oublier qu'il y avait les
Maritimes du Bertrand Cantier. C'est juste une boutade par rapport au sondier.
Oui, je sais. Je m'en doute. Mais mais même le synthé, effectivement, moi je suis plus attiré à la musique plus qu'à l'instrument qui est derrière. Quoi. Je suis assez fan de guitare, je joue de la guitare moi-même. Mais c'est plus la musique et ce qu'elle dégage, le groove, ce qu'elle entraîne, les émotions qu'elle peut donner, des émotions qui peuvent être, ça peut être extrêmement mélancoliques ou extrêmement vivant. Donc moi je suis toujours un très grand fan. Alors il y avait les Enfants du Rock, il y avait à la télévision, il y avait pas mal de choses qui arrivaient, il y avait Michael Jackson qui débarquait, la musique a toujours joué un grand rôle chez moi, et le rock particulièrement pour ce côté décalé, c'est La phrase musicale du rock, elle a ce côté de toutoum de la relance, ou la tourne de blues, c'est la chose qui me plaît, c'est celle que j'attends et qui me fait vibrer. Donc je suis assez rock punk blues. Bah, les Enfants du Rock, il y avait ça, il y avait Sex Machine, il y avait pas mal d'émissions en deuxième partie de soirée qui étaient plus orientées rock. Et puis il y avait les variétoches, il y avait comment ça s'appelait, Champs-Élysées le samedi soir, et tout ça on regardait. Donc du coup j'ai été baigné aussi bien à Alain Souchon et à la variété française qu'au rock américain, et puis au rock anglais, enfin tout ce qui est arrivé, tout ce qui a débarqué d'Angleterre. Puis après moi je suis parti aux Antilles. Alors pour ceux qui ont suivi ma playlist. vous savez que je suis allé aux Antilles, donc là j'ai découvert tout ce qui était musique caraïbe, le reggae, et moi je connaissais déjà Police, hein, donc le reggae, le ska, tout ça c'est des choses que je connaissais, mais le reggae dans sa forme la plus traditionnelle, je l'ai découvert aux Antilles évidemment. Donc moi la musique, il y en a pas beaucoup qui me déplaît.
Et cette époque là du rock, c'était avant ou après le rock, c'est satanique, c'est démoniaque, boue, c'est pas bien?
Alors, je suis passé au travers de ça. Ça m'a jamais, jamais impacté. Il n'y a pas eu de à la maison, il n'y a jamais eu de tabou au sujet de ce qu'on écoutait. Donc l'aspect sataniste, métal et autres. J'ai pas été très, très métal. J'ai écouté plutôt le hard rock avec l'arrivée d'ACDC. Il y a eu Kiss, tout ça. Quand on a commencé à les avoir au top 50, je les ai découverts. Évidemment, il fallait baigner dedans pour les avoir. AC/DC, j'ai pas mal accroché. Mais pareil, AC/DC, quand on écoute, c'est du blues. Hein. C'est pas... il n'y a pas de secret.
Un cheveu à toi.
Alors aujourd'hui, tu nous l'as dit, tu aimes toujours cet album. Tu l'écoutes toujours, peut-être pas aussi régulièrement qu'à l'époque.
Non, pas aussi régulièrement. Mais je le connais par cœur, donc du coup, je l'ai remis juste pour rigoler. Je l'ai repassé complètement, et je me souviens de l'enchaînement entre chaque chanson. Je me souviens même du temps exact au moment où la chanson s'arrête et que la suivante redémarre. Quoi. C'est physique, quoi.
Je vois tout à fait ça. J'ai certains albums où je les connais par cœur. Je connais la chanson qui va suivre. Je connais le timing.
Ouais, d'accord. Il y a quand même un titre de Ray Charles quand même dessus.
Oui. Il y a Grey Woman.
Il y a
beaucoup de chansons qui est récupéré de partout. Hein.
Elvis n'a rien composé de toute façon. Enfin, en tout cas sur cet album-là.
Pas que je sache. Non, c'était pas un compositeur. Il récupérait des chansons. Blue Sweet Shoes, c'était Perkins, hein, qui d'ailleurs l'avait enregistré, qui est devenu maintenant la chanson de d'Elvis, mais Perkins la chanter lui-même au même moment. C'était assez courant d'avoir qu'un titre qui soit chanté soit interprété à peu près au même moment par plusieurs personnes. I Got a Woman de Ray Charles, je ne sais pas quand est-ce que Ray Charles a sorti sa version, mais c'était probablement pas beaucoup longtemps avant.
Oui, c'était une pratique commune. Les écrivains, enfin les paroliers et musiciens, enfin composaient les chansons. Les maisons d'édition les distribuaient aux interprètes et parfois les auteurs les réinterprétaient quelques années, enfin quelques semaines ou entre quelques semaines et quelques années après.
Oui, il ne faut pas oublier non plus que aux États-Unis, tu pouvais carrément vendre la chanson. Et tu perdais tout à fait tes droits dessus. C'est arrivé à Nina Simone qui avait vendu, quand elle est revenue, My Baby Don't Care, il y a quelques années où elle a rechangé son titre. Elle a dû reverser tout ce qu'elle a gagné sur le renouveau parce qu'elle ne possédait plus la chanson. Le côté inaliénable que l'on connaît en Europe du droit intellectuel, tu peux le vendre aux États-Unis. Donc, elle n'avait plus aucun droit sur la chanson. Donc, en fait, je ne sais pas ce qu'RCA possède de ces chansons-là. Si Ray Charles, qui est toujours crédité comme l'auteur, en est toujours le propriétaire, ou s'il a vendu, j'en sais rien en fait.
Est-ce que c'est un album que tu as fait découvrir à tes enfants, à tes copains à l'époque ?
Pas vraiment, non. À mes enfants, j'aurais fait découvrir Elvis. J'aurais fait découvrir la musique qui avait bercé mon adolescence. Je l'avais fait surtout sur la variété française. Quand on partait en vacances, pour évidemment éviter que mes deux filles, j'ai eu un garçon par la suite, mais mes deux filles se bagarrent dans la bagnole ou s'ennuient, je préparais une compile et je leur imprimais les paroles. Du coup, je préparais une compile de chansons de variété française. En prenant les chansons marrantes ou qui bougeaient bien. Donc il y avait du Vassilou, il y avait du Henri Salvador, il y avait Annie Cordy, etc. Et elles avaient les paroles. Donc en fait, elles pouvaient écouter les chansons et lire les paroles et donc se marrer parce que bah, je prenais souvent des chansons marrantes ou qui avaient quelque chose, quoi. Et c'est comme ça que j'ai fait découvrir Piaf, Brel, etc. à mes filles. Et Elvis, je leur ai fait découvrir en leur proposant des compiles, donc pas uniquement cet album-là, mais en proposant plutôt une compile. Il y avait le This is Elvis, je crois, un album, un best-of. Je les ai fait découvrir par cette version-là, qui était peut-être plus intéressante pour montrer toute la palette, parce que là, on est vraiment sur le tout début de sa carrière, quoi.
Ouais, c'est plus accessible. Ouais. Il y a que des titres qui sont connus, reconnus, et pas un album complet avec des titres qui n'ont pas fait date.
Disons que moi, ce que je voulais, c'était leur mettre le pied à l'étrier. Après, elles en font ce qu'elles veulent. Je sais qu'il y en a une, par exemple, elle est devenue fan de Brel, l'autre pas du tout. Voilà, j'aurais mis ça à leur disposition. Maintenant, après, elles picorent ce qu'elles veulent dedans. Ce qui est intéressant par la suite, c'est que si elles assistent à un blind test ou un truc comme ça, dans un truc de village, on va pas parler d'un truc récent, mais justement un blind test où on va avoir surtout des titres de variété assez anciennes, elles répondent parce qu'elles connaissent.
Oui. Ça, c'est... Tu leur as appris le Rubik's Cube ou pas?
Alors le Rubik's Cube, oui, il y en a eu plusieurs à la maison, oui, il y en a toujours, elles ont toujours eu ça sous la main. Mais c'est pareil, moi je mets à disposition, je suis pas prof, j'ai éduqué mes enfants le mieux possible, mais après, je peux pas non plus être tout le temps en train de leur dire, tiens, ça faut que tu connaisses, et j'ai pas non plus la nostalgie. Cet album, je l'ai parce que c'est un petit souvenir du passé qui est sympa, et puis il s'est avéré que par le hasard j'ai eu l'heure de le conserver longtemps, mais il y a plein de choses aussi qui ont disparu au fil de mes déménagements. C'est pas grave, je passe dessus, donc j'ai pas ce côté nostalgie, mais je suis content. En fait, j'ai le côté d'être content de redécouvrir ou content de retomber sur quelque chose que j'ai vécu à un moment donné, mais ça va pas plus loin que ça.
C'est sympa sans aller jusqu'au fétichisme.
Il n'y a pas de culte, non.
Il n'y a pas de culte. Donc cet album, tu nous as dit que tu l'avais toujours.
Ouais.
D'ailleurs, est-ce que tu pourras te prendre en photo avec la pochette pour,
ouais, pourrais, ouais.
pour qu'on la mette sur les réseaux.
C'est pas qu'on ne croit pas, hein, mais voilà, c'est juste pour avoir une
preuve. De toute façon, je pourrais le photoshopper s'il le faut.
voilà, tu peux le faire avec un album d'Annie Cordy et que tu photoshopes, on le verra pas.
Par exemple, ouais.
Donc ton vinyle de donc qui a maintenant pas loin de 45 ans.
Ouais.
Est-ce que tu l'as racheté parce que il doit être un peu usé? Est-ce que tu l'as racheté en CD?
Non, je l'ai pas en CD. Je suis pas sûr d'avoir beaucoup d'Elvis en CD. J'en ai un petit peu, mais non, à un moment donné, je suis plutôt passé à la cassette, parce que dans la voiture, c'était une cassette.
Oui, c'est sûr que le 33 tours dans la voiture, c'est moins pratique.
Donc, j'ai pas mal de choses, mais j'avais plus des compiles de blues, des compiles de choses. Ouais, en fait, à la maison, j'avais les albums. Et puis, en cassette, j'avais plutôt des compiles que j'écoutais dans la bagnole, qui évitaient d'écouter l'intégrale d'un artiste ou d'une artiste. C'était plutôt des compiles, enfin des choses variées que j'avais dans la bagnole. Ça, c'est le moment où j'écoutais dans la voiture. Puis après, oui, il y a eu du CD, mais j'étais pas fan du CD dans la voiture, parce que ça saute. Très vite, on a basculé sur des lecteurs MP3 et des choses comme ça, et donc j'ai plutôt embrayé sur des solutions plutôt émaillées, quoi. Donc je me fabriquais des compiles moi-même plutôt que de prendre une compile toute faite.
Barberousse, je vais attaquer la dernière partie.
Ça va être très rapide, hein, mais
oui.
Cet album, tu le connais par cœur, d'accord?
Oui.
C'est quoi le meilleur morceau?
Alors évidemment, c'est pas évident. Moi, ce que j'aime bien, il y a deux éléments. Ce qui est intéressant dans cet album-là, c'est comme il a été enregistré sur plusieurs années et dans des studios différents, il n'a pas du tout les mêmes sons d'un titre à l'autre. Il y a des moments, Elvis est complètement noyé dans une réverbe très très forte, presque, il a beaucoup de grains sur sa voix. Je ne sais pas sur quoi ça a été enregistré, sur des vieilles bandes où les bandes ont été abîmées entre-temps, j'en sais rien. Mais on a vraiment l'impression d'un truc très très abîmé. Et puis il y en a d'autres où il est vraiment in your face. Et puis il y a surtout énormément de changements de rythme et de style qu'il y a dedans. Alors, par exemple, j'aime bien... lequel je vais mettre I'm gonna sit right down and cry over you, que j'aime bien parce qu'elle a ce côté honky tonk. Il y a le piano de saloon là qui
le
joue derrière,
le piano bastringue comme nous a appris Dame,
qui est vraiment très très chouette et qui a un chouette rythme. Donc voilà, je peux citer celui-là, mais c'est pas le meilleur. Parce que il y a les ballades, I Love You Because qui est super, il y a Just Because qui est l'opposé, qui est très très péchu. Ouais, c'est tellement varié que finalement, allez, on va dire I'm gonna sit right down and cry over you.
Ok. Et là, tu me vois venir. Pas le pire.
Alors le pire, il y en a pas. Mais celui que j'apprécie
le moins... Non,
le
pire, il n'y en a pas. À chaque fois, ils nous le font, il n'y en a pas.
Ouais, non, mais
il y a un moins bien.
Il y en a un que j'apprécie moins, c'est Blue Suede Shoes. Parce que trop connu, trop... Ouais, trop. Ça devient trop une référence. Donc du coup, c'est pas celui que je préfère le plus. C'est le premier de l'album, donc du coup, il passe vite. L'avantage, c'est que les chansons, elles font une minute trente, deux minutes trente, ça va super vite. Donc Blue Suede Shoes, c'est celui pour lequel j'accroche le moins. Mais ça veut pas dire que la chanson est mauvaise, loin de là.
Ah, grande révélation ce soir.
Que j'aime moins Blue Suede Shoes que I'm Counting on You.
Voilà, non mais c'était juste pour avoir le meilleur, le pire. Et je vais te demander une dernière chose.
Oui.
Est-ce que tu peux nous dire mon premier album à moi?
Mon premier album à moi.
Merci, c'est pour qu'on fasse l'intro, c'est pour que je monte et tout. Grincheux, je te laisse terminer.
Eh ben, merci beaucoup, Blast, d'être venu parler avec nous.
Ben, c'est un plaisir.
De nous présenter.
Merci de nous avoir grillé toutes les questions alors qu'on devait juste les poser et puis en fait, était tout déjà fait. Invitez-le,
vous avez
c'est
remarqué
pratique,
que j'étais
hein.
super sage pendant l'intro. Hein. J'ai rien dit. Hein.
Mais oui, oui, voilà, des invités comme toi, bah, c'est pratique. Hein, tout ce qu'on a déjà prévu.
Ah ouais, bah, je vous le flingue en deux secondes.
Ou alors, faudrait qu'on donne le déroulé comme ça.
Ah ouais, mais ça, c'est notre affaire. Hein.
Ah non, non, moi, je veux faire le podcast. Hein. C'est moi qui le fais, c'est moi qui choisis. Hein. On va pas laisser les invités faire à notre place, non. À part s'il fait le montage, mais ça, c'est une autre histoire.
Ça. Non, non, mais si tu passes les questions en avance, comme ça, je sais, je ne réponds pas à l'avance quand je sais que vous allez me poser la question. C'est ça que, le truc.
Et ce qui est bien, c'est un peu c'est l'improvisation. C'est, bah c'est
oui,
chercher à se souvenir. C'est
bah
ça
déjà que je vous casse le rythme en disant « Oui, alors nous, on ne prend que les albums que vous avez achetés. » Alors, il y a une étiquette de prix, mais le prix est effacé ou il n'a jamais été affiché. Il y a une étiquette de classique d'un prix. Donc, je ne vous répondrai pas à la question traditionnelle de combien il a coûté. D'abord parce que je ne l'ai pas payé, puis ensuite parce qu'il n'y a pas de prix dessus.
Et ensuite, c'était en francs.
C'était en francs, oui, ça, c'est sûr.
Les anciens francs, en plus, je crois, alors c'était
non,
compliqué.
Non, c'était pas
là.
Les anciens francs, quand même.
Eh bien, merci Blast. Merci d'être venu.
Merci beaucoup.